of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Like much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices, il est dans quelques secondes 11h03, vous êtes sur Judaïka 90.2 et vous avez bien raison, la météo en bref, il fait gris, il pleut, ouf, il fait pas beau, comme on dirait. En bref, si vous n'avez rien à faire, restez bien devant votre poste pour m'écouter et surtout écouter mon invité. Mais avant de recevoir mon invité, un peu de pub, une chanson, et tout de suite dans le vif du sujet. Allons-y, c'est parti.
Vous souhaitez habiller votre regard et vous équiper les meilleurs verres optiques et lentilles de contact ? Les opticiens André Fisch vous accueillent à Bruxelles, au 14 rue du Luxembourg. Parking clientèle. Téléphone 02 511 61 53 ou visitez notre site www.fisch.be. À Philo, interprète de votre aménagement d'intérieur contemporain en collaboration avec des marques innovantes comme les cuisines Bofi, les dressings Poro, les portes Rimadesio. À Philo, 412 chaussée de Waterloo, ma campagne à 1050 Bruxelles.
Dimanche 11 mai 2014, dès 12h30, le KKL, l'OSB et la communauté de Waterloo vous invitent à Israël 66, Yom HaTzmaout, barbecue géant dans les jardins de la synagogue, 140 avenue Bellevue à Waterloo, avec Sem Hazar, qui danse et chante Israël, Olivier Lord et Rafi Rosenfeld. Entrée libre, tout est gratuit.
C'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi, et je veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire, ici, ici, je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule d'il y a 10 ans. Trottoir usé par les regards baissés, qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau, j'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue souffle. Combien sont là? 4, 3, 2, 1, 0. Rendez-vous dans 10 ans.
jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle, la belle Séverine me regardera-t-elle? Eric voulait explorer le subconscient, remonte-t-il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir, si j'y allais pas je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les retrouvailles de l'amitié. Changer, qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as trois gamins. T'as réussi, tu fais médecin. Et toi Pascal, tu pars toujours pour rien. Allez, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. Toi Marco qui ambitionnais simplement être heureux dans la vie, as-tu réussi ton pari? Et toi François, et toi Laurence, et toi Marion, et toi Gégé, et toi Bruno, et toi Evelyne. Et ben c'est formidable les copains, on s'est tout dit, on serre la main. On peut pas mettre 10 ans sur table, comme on étale, c'est d'être au Scrabble. Dans la vitrine, je vois le reflet d'une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai, si c'est à droite. Attendez-moi, attendez-moi. Des grands hommes, des grands hommes. Tiens, si on se donnait rendez-vous dans 10 ans.
Eh bien voilà, nous sommes là et mon invité est installé. Bonjour Marianne Birkholz.
Oui.
Alors, bienvenue dans nos studios. Je suis très très émue de vous recevoir. Je vais d'abord expliquer à mes auditeurs pourquoi je vous ai invité. Alors, vous venez présenter une exposition de votre défunt mari.
Oui.
On va le dire comme ça en bref pour être un peu clash.
Harry.
Harry Birkholz.
Oui.
Et vous allez présenter des photos, c'est des photographies qu'il a prises, non ? Où il y a des peintures également.
En fait, c'est une exposition dont le concept, il l'avait vraiment créé. Et donc, comme il est parti, comme je vous le disais, en 2011, très brusquement, il m'a tenu vraiment à cœur, ainsi que nos amis, de réaliser cette exposition.
Alors, avant de parce que les auditeurs doivent se demander, mais qu'est-ce qu'il y avait tellement à cœur d'organiser une exposition ? Je vais me permettre de venir en arrière,
oui,
un peu sur votre histoire. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous avez le droit de m'interrompre. Mais non, c'est votre droit. Alors, excusez-moi, vous êtes belge ?
Oui, absolument, avec un nom polonais d'origine.
Voilà, alors vous avez des origines polonaises, non juives, chrétiennes ou athées, je ne sais pas. Mais vous,
oui,
n'êtes pas juive.
Non.
Non. Et puis un jour, vous rencontrez un Allemand qui n'est pas juif, rien du tout. Il s'appelle monsieur Harry Birkholz.
Exactement.
Et vous le rencontrez où, ce monsieur Birkholz ?
Alors, je le rencontre en Allemagne parce que nous allions, en fait...
On est en quelle année ?
On est en 1991 et je fréquente la maison de Mère Mira. Donc en fait, tous les deux, nous avions déjà un parcours spirituel très engagé. Et tous les deux, nous méditions.
Voilà. Spirituel dans vers quel le bouddhisme ces côtés-là.
Je suis enseignante de yoga et donc c'est la pensée indienne.
Ok. C'est-à-dire que nous, pour mettre nos éditeurs, parce qu'il y a plusieurs philosophies de
absolument
de pensée ou de méditation.
Et donc en fait, Hari était un homme terriblement autodidacte et curieux de toutes les cultures, de toutes les religions. Il lisait énormément et donc il était très très intéressé par notamment le judaïsme.
Mais intéressé, il y a quelqu'un dans sa vie qui... Il y a un monsieur qui entre dans sa vie et qui va un peu secouer chez Hari ce truc du judaïsme, parce qu'avant, il ne devait pas vraiment beaucoup savoir au sujet du peuple juif. Avant de rencontrer, on va parler de ce monsieur,
il était absolument passionné.
Shapiro,
ouais.
Qui est de 3 ans son aîné, non, de 4 ans son aîné.
Oui.
Monsieur Shapiro vient au monde en 1946 et Hari Birkholz en 50.
Exactement.
C'est-à-dire que ce sont des générations après-guerre.
Absolument.
Un en Allemagne et l'autre...
En Autriche, en fait.
En Autriche, mais un juif et un... chrétien et un allemand après-guerre.
Oui.
C'est pas rigolo.
Non, parce qu'en Allemagne, bon, le silence régnait évidemment sur toutes les horreurs qui avaient eu lieu. Et c'est à l'adolescence qu'Hari a eu tout à coup la révélation de ce qui se passait. Parce que, en fait, il m'a beaucoup parlé pendant les 20 ans de notre vie commune. Et c'est l'aspect aussi, c'est que tout à coup, il a pris conscience, à l'âge de 15 ans, de ce qui s'était passé dans son pays d'origine.
Et c'est terrible quand on est jeune adolescent allemand, et soudain, un jour, je ne sais pas si on se réveille, on se rend compte que
c'est
la génération juste avant moi, et même celle encore qui est là, a détruit un monde.
Oui. C'était pour lui quelque chose qui restait toujours dans sa conscience toute sa vie. Et bon, voilà, il était du coup très attiré par l'immigration parce que ça lui faisait tellement horreur ce qui s'était passé en Allemagne. Et je pense qu'il a trouvé en Belgique une terre d'accueil.
Et il arrive comment en Belgique ? Par hasard ? Une exposition ? Voyage ?
Non, on s'est rencontrés en Allemagne, donc dans cet endroit.
Et
on est tombés amoureux.
Ah, quel bonheur ! C'est vous qui l'emmenez au Frittenland.
En fait, je lui ai dit où veux-tu que nous vivions ? À partir du moment où
il fallait choisir entre la saucisse viennoise ou francophone et les frites belges.
À Cologne, il habitait près de Cologne. Et il a dit tout de suite je veux venir. En Belgique.
Alors, quand il vous rencontre, il connaît déjà Chaim Shapiro.
Non. Ça, c'est vraiment beaucoup plus tard, parce que Hari, donc, ici, en Belgique, il a vraiment développé l'enseignement de la peinture, du dessin. Il a travaillé à la Ligue de l'enseignement, et nous faisions donc aussi des ateliers chez nous. Et de cette manière, en fait, Fiona, la femme de Chaim, est venue à ses ateliers de peinture.
Encore une fois, c'est sur le chemin de votre vie, arrive une dame, comme ça, pour apprendre à peindre dans l'atelier de votre époux. Il y a un lien d'amitié et c'est là, c'est elle qui est le lien.
Oui.
Elle est l'épouse
de Chaim
Shapiro.
Oui.
Et c'est elle qui va faire la rencontre entre votre époux et
absolument.
Le sien.
Absolument. Elle en parle. Elle parle de lui à Hari et Hari qui est toujours très ouvert, qui a toujours envie de rencontrer des personnes belles et généreuses.
Excusez-moi, mais ce monsieur Chaim Shapiro.
Oui. Il vit à Baltimore, aux États-Unis.
Un instant, il vit aux États-Unis, qu'est-ce qu'il a à voir avec la Shoah ? Est-ce qu'il est un fils rescapé ?
Absolument.
Il est quoi ?
Oui.
Ses parents ?
Ses parents, en fait, sont rescapés de la Shoah. Ils ont été cachés, quand ils étaient très jeunes, chez un fermier de Bransk, la ville originaire de la famille Shapiro.
En Pologne.
En Pologne.
Oui.
Grâce à l'aide d'une pharmacienne aussi catholique, etc.
On les a évacués aux États-Unis.
Et après, effectivement, ils ont été mis dans un camp américain en Autriche. Et c'est de là qu'ils sont partis.
Le Joint. C'était le Joint qui s'occupait de ça.
Oui.
On emmenait les enfants... malheureusement orphelin vers...
Non, toute la famille.
C'était toute la famille. J'imagine que c'est cette organisation du Joint qui s'occupait.
Ouais.
Mais dites-moi, comment alors ces deux messieurs vont devenir tellement intimes ?
Alors, Haïm est venu un été, on a soupé ensemble, ça a été, je dirais, un coup de foudre de l'amitié. Voilà. Et après ça, l'année suivante, comme nous allions à New York, on s'est arrêté à Washington, on a été voir nos amis. On a été visiter ensemble le musée de l'Holocauste à Washington, qui est très impressionnant. Et là, Harry a eu une telle émotion que, quelque chose s'est passé vraiment de très profond entre eux. C'est même Haïm qui a pris Harry dans ses bras. Et à partir de là, ces deux hommes se sont parlés et ils sont restés toute la nuit éveillés pour se parler de leur histoire. Parce que c'était vraiment...
Ça a dû être bouleversant.
Oui,
c'est bouleversant, cette rencontre d'un Allemand fils d'eux et un Juif, un Américain fils d'eux.
Oui.
Et les deux côtés de la barrière, mais là, il n'y a plus de barrière.
Exactement. Et ça, c'est, je crois, le mystère de l'amitié, de l'amour, c'est que les barrières tombent quand l'amour est présent.
Et alors
Ils se sont échangés et après, quand nous sommes revenus en Belgique, Harry a vraiment explosé de créativité, enfin de création, en lien avec justement la visite du musée de l'Holocauste. Et donc cette série de peintures, je l'expose donc à l'atelier Marcel Astier.
Vous êtes venu surtout pour parler de cette exposition
et
exceptionnelle.
Et de cette série en fait de peintures très particulières qu'Harry a fait et que je considère un peu maintenant comme une espèce de testament spirituel et artistique.
On va faire une petite pause musicale et puis on revient. Et là, on va parler, parce que l'endroit également est assez mythique.
Absolument.
L'atelier Marcel Astier, vous n'avez pas été dans une galerie, avec tout le respect que j'ai pour toutes les galeries d'art, mais vous avez été dans un endroit bien mythique, l'atelier de Marcel Astier. Alors, on va écouter. Alors, c'est vous qui avez fait le choix musical.
Oui,
alors, on va parler. C'est une jeune pianiste et chanteuse. Elle chante et elle joue du piano.
Qui vient de New York. Et voilà, c'était le coup de cœur.
Judith Bergson.
Oui.
Alors, vous la connaissez ou bien c'est juste un coup de cœur?
Oui, non, c'était... Il l'a découverte parce qu'il adorait la musique. Et là, vous verrez, elle est à la fois traditionnelle à certains moments et puis très contemporaine. Et ça,
alors,
il adorait,
elle chante en anglais, en français, en yiddish?
Alors, en yiddish. Et parfois, elle joue du piano. Je pense que ça commence par une pièce au piano, simplement.
Allons-y. Alors, je rappelle aux auditeurs, elle s'appelle Judith Bergson. Piano et voix, je ne sais pas ce qu'il va y avoir, on découvre ensemble.
Thank you.
bien, c'était Judith Bergson. Ah non, elle n'a pas fini encore, la gentille. Oh là là. Ça, c'est un autre morceau. On écoutera tout à l'heure. Alors, on va en venir à vous exposer les œuvres de votre époux à l'atelier Marcel Astier.
Oui.
Alors, on va d'abord donner les dates. Le vernissage, l'exposition est ouverte du 3 au 25 mai, uniquement les samedis et dimanches de 14 à 19h.
Oui, absolument.
Ça veut dire que toute la semaine, on peut aller...
Non.
Ce n'est ouvert que le samedi et le dimanche.
Voilà.
Ouvert en seulement. Semaine, on ne peut pas y aller.
Non, parce que les salles sont occupées pour d'autres activités
de
l'atelier. Nous avons aussi tous les samedis, il y aura des soirées.
À thème, voilà ce que je voulais arriver. Et vous avez, l'atelier Marcel Astier a programmé tout d'abord le vernissage le 3 mai à partir de 18h. Et l'inauguration à 20h l'exposition.
Où Monsieur Simon Gronowski va nous faire le plaisir de venir aussi.
Ah, quel plaisir.
Oui. Je ne le connaissais pas, en fait.
Il va jouer de son instrument, non il...
Je ne sais pas, moi, qu'il arrive, mais je ne sais pas. Ce serait une surprise, en tout cas. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'année passée, au moment où il a édité le livre qu'il a fait quand même connaître, nous avons été, Fiona et moi, très touchés, en fait, que lui aussi, il a vécu une amitié qui a fait que...
Simon Gronowski.
Oui, avec Konrad Tinol. Bon, maintenant, tout le monde connaît l'histoire.
Oui,
et
il y a eu le livre.
Qui libère, en fait, des hommes très sensibles et artistes, en fait. Et donc, cette, je dirais, analogie d'une histoire dans une génération précédente, mais qui aussi fait que...
Une certaine similitude
qui fait qu'on l'a contacté et il a très gentiment accepté de venir.
Alors, il sera là le 3 mai.
En principe, oui.
Alors, les soirées à thème, quand vous dites soirée à thème, il y a quoi ? Il y a un spectacle musical ? Il y a une lecture ?
Non, en fait...
Il y a quand même le 10 mai, le 17 mai et le 24 mai, il y a trois soirées à thème qui démarrent de 20h à 22h30. Aux ateliers Marcel Astier.
Absolument. Mais
expliquez-nous, qu'est-ce que c'est les soirées à thème ?
Alors, en fait, c'est une idée personnelle, parce que bon, je suis vraiment, disons, concernée par le fait que tout le monde puisse être sensible à ce processus, en fait, de transformation intérieure qui peut se passer chez quelqu'un, que j'ai vu qui s'est passé chez Harry. Et comme j'en étais le témoin le plus proche, j'ai envie de témoigner de ça. Mais pour que le fil rouge de cette exposition soit compréhensible, donc j'ai imaginé de faire trois soirées.
Alors la diviser, ça veut dire que c'est la même exposition que vous
faites
découvrir de trois manières différentes.
En fait, en étapes, si vous voulez.
D'accord.
Et si quelqu'un veut venir à une étape, il vient à une étape.
On perd si on ne vient pas aux trois étapes.
J'en sais rien, ça dépend, hein. C'est à chacun à juger, tout le monde est libre, mais...
Est-ce que les étapes ont des thèmes, des noms ?
Voilà, différents. Donc la première soirée, le 10, sera consacrée à la mémoire de l'histoire de la ville de Bransk, de cette famille Shapiro qui a un destin... Bon, particulier, avec immigration donc, aux États-Unis.
Particulier pour votre époux, puisque c'est là, c'est un peu le sort de beaucoup de gens rescapés.
Et ce n'est pas
rescapés,
pour focaliser sur une famille, c'est pas ça.
Mais il faut mettre le contexte. Votre époux vient d'Allemagne et tout, et il y a un choc à un moment donné dans sa vie, et il est en plus adolescent, et ça ne va plus le quitter jusqu'à la fin de sa vie.
Exactement,
C'est quand même très intense.
C'est très intense. Et donc, il y a beaucoup de membres de la famille Shapiro qui font le voyage
des États-Unis
pour assister à cette soirée, pour témoigner de leur histoire. Et évidemment, toutes les personnes qui ont des histoires semblables sont invitées à nous rejoindre pour témoigner aussi et d'échanger.
Alors, quand la soirée thème du 10, c'est... il y a une étape dans le parcours, c'est quoi le premier ?
Alors, c'est la mémoire.
La mémoire.
Et ensuite,
le 17.
Oui, alors là, j'ai songé justement à inviter des amis qui avaient soit travaillé avec Harry au niveau de la peinture et qui, disons, était prête à parler de ce thème qui me tient à cœur, c'est-à-dire donc comment l'amour et l'amitié peuvent aider à la libération créatrice et susciter l'expression artistique en transcendant la souffrance intérieure. Donc ce processus...
Ils ont dû énormément se parler.
Alors, en fait, c'est trois amis, et puis, soit on s'est rencontrés chez moi, soit par téléphone, sur Skype, mais il y a eu quelque chose au niveau du cœur, parce que l'amitié pour Harry, l'amitié aussi pour moi, j'avoue, je leur suis très reconnaissante. Il y a une amie qui vient de Vienne, d'Autriche, qui est artiste elle-même, qui a fait... plus d'une dizaine d'années de peinture avec Harry.
Quand on est quand même allemand, avec tout ce lourd, ces valises énormes qu'il faut porter,
oui.
Parce que c'est même pas des valises, c'est des conteneurs.
C'est énorme.
C'est très lourd parce que c'est très aussi compliqué à comprendre. Il ne faut pas oublier qu'il vient d'un pays où la culture est tellement primordiale et depuis des générations.
Oui.
Alors... est-ce qu'il s'est parfois confronté à des gens qui l'ont un peu agressé, qui lui disent « Mais qu'est-ce que tu veux prouver? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu viens, toi, Allemand, laver les autres ?»
Non, il n'était
jamais.
Pas du tout comme ça, Harry. Je crois qu'il ne disait pas grand-chose de ce qu'il ressentait. C'est plutôt maintenant moi qui demande à des amis, comme notamment Marie-Thérèse Kassel, qui est une psychanalyste, qui est allemande, mais qui, justement, travaille énormément toutes ces questions avec des psychanalystes aussi
et
bien à Berlin. Mais ça reste vraiment des choses très délicates au niveau de la souffrance que porte tout le monde, finalement.
Mais bien sûr, parce que nous je me permets de dire nous, puisque je fais partie de cette seconde génération, nous avons à quoi se raccrocher positivement, mais les Allemands, ils ne peuvent pas se raccrocher puisque tout est négatif. Quand on se pose la question, puisqu'il y a quand même encore des idiots qui... est-ce que c'est pas lourd à porter? Ils vous en parlaient ou bien c'était vraiment...
Ils m'en parlaient, oui. Mais ils n'allaient pas en parler ouvertement à d'autres. Harry était quelqu'un, en fait, je vous ai apporté des photos,
oui,
très souriant.
Bon vivant, souriant, bel homme... on dirait
extrêmement gentil.
Un jeune homme qui est tout le temps, qui a envie de croquer la vie à pleines dents. Malheureusement, comme je dis, Dieu l'a rappelé comme une fusée, comme une étoile filante.
Oui.
Il est parti en combien de temps? En 20 minutes
Au ciel, parce qu'il était aussi astrologue. Donc
en plus,
il a rejoint les étoiles.
Mais
c'était vraiment, pour moi, un très grand choc. Mais pour lui, comme vous le disiez tout à l'heure, quand nous parlions, finalement, peut-être une bénédiction de ne pas souffrir.
Mais oui, il est parti en 20 minutes, vous m'avez dit.
Oui.
Ça veut dire qu'il était en pleine forme, il n'était jamais malade, rien. Et un jour, plop.
Oh, disons que...
Ah, les petits bobos comme tout le monde.
Voilà, exactement.
Il a fait un arrêt cardiaque et il est parti.
Oui.
Comme une étoile filante. Vous savez, je ne sais pas si peut-être Chaim Shapiro ou son épouse a dû vous raconter. Chez nous, dans le peuple juif, nous venons tous pour une réparation, ce que nous appelons le tikkun.
Oui.
La réparation.
Oui.
Et on ne sait pas, alors certains viennent pour parfois une heure, deux heures, des bébés qui viennent au monde et qui meurent une heure après.
Oui.
Et puis, il y a des gens, ils sont là, 105, 110, 130. On ne sait pas combien Dieu donne à chacun. Je ne sais pas si vous êtes croyante. Quand on est là en pleine forme, il était jeune, il avait 60 ans.
Oui, 61.
61 ans.
Oui.
Et comme ça, un jour, il s'est levé. Et bien, quelqu'un là-haut, elle a dit, allez, ça y est, c'est fini ton temps là-bas sur Terre. Tu as d'autres choses à faire ailleurs. C'est vrai que c'est un choc pour ceux qui sont là, nous, les pauvres terriens. Mais c'est magique pour pas souffrir, pas avoir mal, rien. Au revoir, merci, je fais ma révérence. Chez nous, on dit, c'est un grand srout, c'est un grand mérite.
Oui.
On va
Merci.
Écouter un deuxième morceau de ce CD. Alors, le morceau s'intitule, si je trouve le... Attendez, parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahava Olam, l'amour du monde.
Voilà.
C'est bien ça.
Oui.
Alors, c'est vous qui avez choisi?
Oui.
Je vous ai déjà posé la question, vous ne la connaissez pas personnellement, la dame?
Non, pas personnellement, mais voilà.
Vous aimez. Allons-y.
Harry, écoutez toutes les musiques.
Ahava Olam, l'amour du monde.
Oui.
C'est parti.
keinu bishoy khbeinu bishoy khbeinu fkumeinu nasi
sublime, hein, elle a une voix magnifique. Alors, juste je rappelle, Judith Bergson, la pochette, le disque s'intitule Oilam. Judith Bergson, Oilam, je crois qu'on peut le trouver dans, chez tous les bons disquaires. On va revenir, alors on a écouté Judith Bergson, ça tombe bien, puisque le 24 mai, le troisième thème, c'est sur la musique. Pas vraiment la musique, c'est la poésie.
Oui, le chant de Salomon, oui. Mais qu'on peut retrouver dans l'Ancien Testament, dans la Bible, mais aussi dans la Torah. Et donc, en fait, ça représentait, ça symbolisait quelque chose pour Harry. Il lisait tous ces textes anciens avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et il a peint, en fait, des séries de 7 tableaux très abstraits, avec quelque chose de très particulier, ce que j'appelle, moi, le signe pictural, qui, dans son œuvre, revient régulièrement, qui est encore différent de l'écriture qu'il utilisait parfois. Mais donc, je vais parler de ça à cette soirée, tandis que mon amie Sabina Bawani va commenter et réciter le Cantique des Cantiques.
Ah là, c'est merveilleux. Dites-moi autre chose. Moi, je sais que vous avez une histoire. Il y a quelque chose qui va être exposé qui est assez bouleversant.
Oui.
Vous ramenez d'Amérique un objet, enfin, pas vous, mais c'est... Chaim Shapiro,
oui.
Ramène un morceau de Torah brûlé...
De la ville de Bransk.
Alors, Bransk est la ville des parents de Chaim Shapiro. Alors, et votre mari... Harry va photographier lors de la découverte de cette pièce.
Alors,
parce qu'il y a une série de photos que vous exposez à l'atelier Marcel Astier, les photos de cette Torah à brûler que vous ramenez un morceau ici pour qu'on puisse voir.
Voilà.
Racontez-nous l'histoire de cette Torah et de cette photo et de toute cette histoire, parce qu'elle doit avoir une histoire. Déjà qu'elle est issue de la ville d'où viennent les parents de Chaim Shapiro, c'est déjà très intense.
En fait, ce que nous avons compris, parce que c'est un peu dans ces histoires comme un puzzle, hein, on rassemble les éléments, il y a un homme dans la ville de Bransk, qui est historien, qui s'appelle Monsieur Romaniuk, qui s'est beaucoup, beaucoup occupé, justement, de ne pas enterrer ou de ne pas passer sous silence l'histoire du shtetl de Bransk, où 2500 juifs, en fait, ont été déportés à Treblinka.
Et tout le village.
Quasiment tous, sauf quelques rescapés.
Il me semble que c'est voilà. Un endroit d'ailleurs pas très loin de Treblinka.
Oui.
J'ai lu
exactement.
C'était facile, c'était pas loin.
Oui, c'est l'horreur parfaite. Et donc, ce monsieur Romaniuk, notamment, a aussi retiré les pierres des trottoirs à Bransk, et c'était en fait les pierres des tombes de cimetière juif. Il a reconstitué ce cimetière un peu à l'écart. Il a fait vraiment beaucoup. Et donc, dans les années 90, il y a même un film qui a été fait, qui s'appelle Shtetl, d'un monsieur Marzinski, qui était aussi originaire...
C'est un énorme... C'est cinq cassettes.
C'est encore le VHS.
Ah, c'est le VHS, parce que
mais il y a moyen
énorme.
De le retrouver avait... sur Internet.
Et ça s'intitule... Oui. Ce film s'intitule Shtetl.
Oui. D'accord. Et là, c'est toute l'histoire, évidemment, de la ville de Bransk, de tout ce qui s'est passé, du travail de monsieur Romaniuk sur le terrain. Et c'est à ce moment-là que, en fait, Chaim Shapiro a fait son premier voyage pour retourner à la ville de Bransk. Et il semble que monsieur Romaniuk lui ait donné ce fragment de la Torah brûlée de Bransk, qu'il a ramené aux États-Unis dans un premier temps. Que donc Harry, dans la nuit du 2 au 3 août...
dans les années 90.
2009.
Non, déjà dans les...
Oui, 2009 pardon. Oui. A photographié pendant qu'ils se racontaient leur histoire respective. Donc,
ça veut dire que ces photos, on va pouvoir les admirer.
Oui, on les voit. Et j'ai aussi le fragment de la Torah brûlée qu'on présente aussi.
Ça veut dire qu'on vous avez fait arriver, j'imagine, dans un très sécurisé, ce morceau de Torah. Vous l'avez déjà vu?
Oui, bien sûr, c'est à
c'est
la
grand?
Maison. Non, c'est petit, en fait. Ah, parce qu'ils ont
morceau.
Divisé entre toutes les personnes qui venaient de Bransk, donc, pour que toutes les familles
chacun
aient
une
souvenir.
Relique,
oui, absolument. Mais donc, je pense que c'est très, très touchant. Et en fait, nous qui faisons un groupe pour travailler sur ce projet, parce que ça fait un an et demi qu'on travaille dessus, pour le rendre aussi compréhensible, on a aussi donc fait des œuvres qui complètent l'œuvre d'Harry, mais pour justement que tout ça soit beaucoup plus assimilable, je dirais. Et on a fait aussi un hommage avec 2500 symboles, une lettre hébreu, le Chet.
Chai, oui, la vie.
Oui, la vie, pour symboliser justement toutes ces victimes, parce que nous ne voulions pas que ça reste juste un chiffre. Et voilà, donc il y a plein de choses qu'on a envie de partager avec les personnes qui viennent. Qui viendront.
Qui viendront bien. Je cherche, parce que comme j'ai été assez... ébloui par la voix. Le morceau suivant, elle joue ou elle chante? J'aimerais
alors,
qu'on l'écoute
si
encore
c'est
chanter.
Alors, chante,
vous m'avez
mais en
demandé
anglais.
De programmer le numéro 11, Fallen Innocent Wandering Thieves. Elle chante?
Elle numéro... chante, ou bien alors vous pouvez
non,
passer...
Non, le 11, c'est They Can't Take That Away From Me. Oui. C'est George and Ira Gershwin. Là, elle chante pas.
Si, un peu, elle le chante, mais si vous voulez, elle chante aussi le 13.
Le numéro 13, oh, mais je la connais bien, c'est une chanson merveilleuse en yiddish.
Alors,
c'est une chanson d'enfant,
celle-là.
Oui. On va la mettre celle-là. Oui. C'est une chanson écrite par un monsieur qui est un grand poète, il est malheureusement parti pendant la guerre, Gebertik, Mordechai Gebertik. Qui était merveilleux, qui a écrit des choses sublimes, qui des chansons merveilleuses. Comme je chante un petit peu en yiddish, alors je sais de quoi je parle. On va l'écouter, cette Huliet Huliet Kindeler. Mm-hmm.
frei beherrscht die Welt, brech die Zweig, warf die Bäume, tut, was euch gefällt. Brech die Zweig, warf die Bäume, tut, was euch gefällt. Treibt die Vögel von die Felder und verjagt sie fort. Die, was keinen weit nicht fliehen, tät sie auf den Ort. Die, was keinen weit nicht fliehen, tät sie auf den Ort. Reißt die Laden von die heißlich, Scheiben brecht der Reus. Brennt a lichtlerges Dunkel, lässt mit Sorgen aus. Brennt a lichtlerges Dunkel, lässt mit Sorgen aus. Hul jet, beisa winden, is dies eie Zeit. Lang bedeuern der Winter, Frühling is noch weit. Lang bedeuern der Winter, Frühling is noch weit.
C'est superbe, hein? J'aime
oui,
beaucoup.
C'est une voix alors, merveilleuse.
On va rappeler aux auditeurs, l'exposition démarre le 3 mai, le vernissage à 18h, l'inauguration à 20h. Elle se termine le 25 mai. Cette exposition n'est visible que le samedi et dimanche de 14h à 19h à l'atelier Marcel Astier, 51 rue du Commerce à 1000 Bruxelles. Il y a 3 soirées à thème, on en a parlé, le 10, le 17 et le 24 mai de 20 à 22h30. Et si on désire des détails du programme, eh bien, il suffit d'aller sur www.aribirkols. Alors, Birkols, ça s'écrit B-I-R-K-H-O-L-Z. Harry Bricols en entier point net.
Oui. Voilà. Et Harry, en fait, H-A-R-R-Y.
Et H-A-2-R-Y.
C'est un nom très américain.
Très américain.
Parce que les parents d'Harry étaient censés émigrer au Canada. Ils lui avaient déjà donné un nom.
C'est déjà, eux, ils avaient un souci avec leur passé.
Absolument.
Ouais. Oui. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Non. En tout cas, merci beaucoup d'être venu.
C'est vraiment une très grande joie pour
moi. Et j'espère que ce sera un grand succès, qu'il y aura plein de monde pour voir cette exposition de peintures, de photos, d'objets.
Et l'occasion de rencontres conviviales où on peut parler.
Ces gens
parler.
Qui viennent des États-Unis, un peu de partout.
Absolument.
Et surtout le background de votre mari, Harry Birkols. Merci beaucoup d'être venu.
Merci beaucoup à vous.